RCF, les grands entretiens d'Éric Rouillet.
Cyprien Arlot, bonjour.
Bonjour Éric.
Vous êtes le gérant du domaine Arlot à Moret-Saint-Denis. Vous faites suite pour nos grands entretiens à deux vignerons de Vaune-Romanée, Aubert Villaine et Jean-Yves Bizot. Et je considère que votre présence dans nos studios est en cohérence avec ces deux représentants majeurs du monde du vin, puisque vous serez prochainement, je crois, amené à illustrer une sorte d'autorité morale de la Bourgogne, de par votre personnalité, mais aussi la dimension de votre production, dont le marché n'a pas encore perçu toute la grandeur, probablement à cause d'une attitude très en retrait du tumulte actuel. Effectivement, dans une période agitée par un succès tapageur qui dépasse la compréhension de la plupart des vignerons, vous avez préféré le silence à une sorte de communication farfelue. Et c'est dans ce silence que vous construisez un édifice de référence que je me devais de saluer pour commencer cette émission. Ce petit portrait, évidemment restrictif, vous convient-il ?
Eh bien, écoutez, oui, moi ça me convient tout à fait. Le silence, c'est important. Voilà, il y a des moments de silence. C'est même aujourd'hui ce qu'il y a le plus compliqué à faire. C'est de pouvoir garder ce silence tout en ayant un message à délivrer. Et moi, je pense que la Bourgogne est née aussi de ce silence, de cette méditation. Et moi, c'est un fil conducteur que je suis depuis 20 ans, quand j'ai commencé ce beau métier de vigneron en 1998.
Et est-ce qu'on peut dire que par rapport à la façon dont aujourd'hui la communication est faite en Bourgogne, le silence peut être la vertu de la communication ?
Aujourd'hui, on vit, moi j'ai toujours vécu aussi avec mon époque, donc aujourd'hui je suis conscient qu'on est dans une époque de communication, qu'il peut y avoir aussi une certaine overdose de cette communication, que cette communication est nécessaire. C'est vrai que si on est reclus dans sa cave, on peut faire le meilleur vin du monde, personne ne le saura. Mais pour autant, je suis un adepte de cette communication, je dirais, maîtrisée, voulu, pas forcé, et aussi qui doit être comprise. Voilà, la communication, c'est pas toujours émettre un signal, c'est aussi pouvoir accueillir des gens qui perçoivent un certain intérêt à vous écouter. Voilà.
Donc c'est une absence de communication.
Aujourd'hui, c'est vrai. Aujourd'hui, quelquefois je me dis, tu as toujours cru en ça, peut-être qu'aujourd'hui c'est complètement à contre-pied de ton époque. Et pour autant, c'est ma façon d'être et je l'assume. Voilà.
Mais donc vous estimez être en cohérence, non pas avec le vigneron, mais avec vous-même là. Ça dépasse le simple fait d'être vigneron.
Oui, c'est. Je crois qu'être vigneron, c'est être avant tout soi-même. Aujourd'hui, j'ai accepté de faire cet entretien parce que je pense que c'est important aussi de savoir communiquer, savoir sortir un petit peu de sa méditation, de son métier, parce que le vin est un moment de partage. Voilà, partager un vin, c'est bien. Ça veut bien dire à un moment donné communiquer. Voilà. Donc c'est vrai que pour l'établir, pour l'élaborer, pour le concevoir. Et pour essayer de faire un vin qui soit abouti, c'est important d'avoir cette concentration, ce moment de silence, de recueil. Et pour autant, il faut savoir en sortir aussi à un moment donné pour apprécier ce moment de partage.
Écoutez, je suis content que donc, vous ayez pris la décision de venir. J'ai une question un petit peu perfide à vous poser. Quand on cite Chambol-Musigny, Gevrey-Chambertin, Vaune-Romanée, vos voisins, les yeux pétillent, les papilles rentrent un peu en turgescence. Mais dès que l'on nomme Moret-Saint-Denis, l'excitation n'est plus la même. Est-ce que votre village manquerait à ce point d'érotisme ?
Alors, aujourd'hui, quand on est en Bourgogne, on est avec un héritage. Voilà. Et cet héritage, l'héritage de Moret-Saint-Denis, il est ainsi. Voilà. Il est peut-être un peu moins effectivement érotique que celui de Chambol, probablement. Mais l'histoire, ça s'écrit, on ne fait pas que subir l'histoire, donc aujourd'hui ça fait partie de ma génération, ça fera partie des générations qui me succéderont, d'écrire cette page de Moret. Et Moret pour moi peut avoir des côtés très sensuels et procurer dans les plaisirs les plus fameux, voilà, que peut procurer un vin, un excellent vin de Bourgogne.
Monsieur... en continuant dans cette lignée, avant de Romanée, il y a des domaines emblématiques comme le domaine Leroy, le domaine Bizot, le domaine Aronnay-Conti, etc., etc. À Chambol, on a Roumier, on a Munier. À Gevrey, on a Rousseau. C'est très schématisé, mais n'y a-t-il pas un vigneron dans l'ombre qui devrait prendre possession d'un statut équivalent à Morée ? Alors, je ne parle pas du domaine des Lambrais et du Clos de Tarc qui ont été rachetés par des grands groupes financiers, mais qui ne représentent peut-être plus l'image du vigneron. N'y a-t-il pas un papa dans le village qui, dans l'équivalence des vignerons que je viens de citer, dans les autres villages, soit à même de représenter le statut, l'histoire et la grandeur de ces villages ?
Comme je vous dis, il y a une histoire à écrire sur Morée. Aujourd'hui, moi, c'est un métier que je fais avec amour, passion et bonheur au quotidien. Et je le fais à Morée avec aussi une histoire. Et pour moi, ça serait un bonheur qu'effectivement Morée puisse naître comme aujourd'hui existent Vaune, Chambol et bien d'autres villages de la côte. C'est une question des fois de patience, de confiance en soi. Voilà. Et puis ce sont des choses qui ne nous appartiennent pas. On fait un vin avec son âme, avec son temps. Avec ses efforts, et puis ce vin, on le libère, on le donne. C'est aussi un moment de donc je vous disais tout à l'heure, de partage, mais aussi de hasard. Voilà, et la façon dont il est reçu, la façon dont il est compris, à ce moment-là, vous avez une aura, et je pense que Morée mérite ça. Ouais, Morée le mérite, comme beaucoup de, parfois en musique, de certains compositeurs sont restés des fois un petit peu dans l'ombre d'autres. Voilà, est-ce qu'il y a une cohérence à tout ça ? On est dans le milieu du naturel et des fois de l'irréel aussi.
Et alors, comment vous expliquez ce retrait du statut de Morée-Saint-Denis par rapport à ses voisins ? C'est pas par rapport à la qualité des vins ? Il y a une explication.
Moi, je pense que l'histoire est toujours, j'ai toujours un grand respect pour l'histoire. Et en regardant dans l'histoire, dans le passé de Morée, on a une histoire qui est plus jeune, qui est peut-être moins bien comprise des acteurs de cette appellation. Voilà. Et quand on parcourt les années et quand on commence de s'intéresser un petit peu à soi-même, eh bien, cette histoire, finalement, elle s'écrit assez vite. Voilà. Et aujourd'hui, en 20 ans, on est passé, peut-être même, je dirais, pour nous, les vignerons de Morée, d'une histoire qui était inexistante à aujourd'hui une définition des contours qui deviennent de plus en plus précis. Voilà.
Est-ce qu'un vigneron est dans la nécessité de réfléchir pour faire un bon vin ?
Alors, je pense que on peut faire un très bon vin avec des fois beaucoup de chance ou un héritage qui est très confortable. Ce qui est très important pour moi, je dirais encore plus que réfléchir, effectivement, c'est de ressentir. Voilà, c'est peut-être qu'en réfléchissant, on peut faire un très bon vin, mais ça ne suffit pas. Voilà, c'est très important dans le ressenti, de suivre aussi son intuition, de suivre et de réfléchir, parce qu'il y a tellement de choses à faire, c'est un métier qui est très complexe. Voilà, et puis aussi d'accepter de vouloir apprendre, de se tromper, pour recommencer.
Donc pour vous, d'après ce que j'ai compris, un bon vin fait plaisir, mais un grand vin est dans l'émotion.
Le grand vin, c'est l'émotion. Voilà, c'est uniquement l'émotion. Et pour atteindre cette émotion-là, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Ça ne s'apprend pas, ça se comprend, ça se ressent. Et la chance est là, on est un métier qui joue en permanence avec la nature. Voilà, il faut accepter que cette nature aussi nous donne les règles du jeu. Et puis il faut être à l'écoute, il faut être prêt à recevoir, et puis prêt aussi à saisir sa chance quand elle est là.
Vous possédez 4 grands crus, Cyprien Arlot. Le Bonnemare, le Cham-Chambertin, le Clos-la-Roche, le Clos-Saint-Denis. Là, je vais vous poser une question un peu embarrassante. Ou peut-être pas d'ailleurs. Est-ce que leur prix est en cohérence avec une échelle de qualité qui vous est personnelle, ou d'autres facteurs entrent-ils en compte, comme la notoriété ou le classement, ou le prestige ?
Pour moi, quand, quand on fait un vin, moi j'ai jamais été à l'aise personnellement avec, avec le prix, la tarification des vins. On a un métier qui, dont on, aujourd'hui, en ce qui me concerne, dont, pour lequel je dois tirer les fruits, dont je dois en tirer les fruits pour vivre. Donc on doit mettre un prix, effectivement, sur le vin que l'on fait et que l'on commercialise ensuite. Mais aujourd'hui, c'est une question très, très complexe. Je ne suis pas peut-être la meilleure personne pour en parler, parce que probablement qu'en ayant très confiance en soi, on est à même de mettre le juste prix sur son vin. En ce qui me concerne, voilà, je connais la valeur de mes vins, je sais la façon dont ils sont faits. C'est beaucoup plus complexe ensuite de mettre un prix en adéquation, un prix excessif pour certains, qui sera le juste prix pour d'autres.
Alors, par exemple, est-ce que vous pourriez préférer certains premiers crus de votre domaine, comme le Jury Chambertin et Combottes, à certains grands crus que vous avez? Et dans ce cas, émettre quelques réserves sur le classement des parcelles? Et n'y aurait-il pas alors un espace d'interrogation?
Alors pour moi, vous avez pris un exemple, c'est pour les auditeurs qui ne connaissent peut-être pas forcément toute la classification bourguignonne. Bien sûr, on a des premiers crus qui sont sur le papier classés à un niveau en dessous des grands crus, qui mériteraient d'être considérés comme les meilleurs. Et le vin que vous avez cité au Combottes en est un bel exemple. Mais pour moi, les grands crus aujourd'hui restent, lorsqu'ils sont compris, interprétés, respectés comme les plus grands vins de Bourgogne et parmi les plus grands vins au monde.
Et est-ce qu'on peut concevoir, dans votre réflexion de la hiérarchisation des crus, que certains vignerons n'auraient pas la perception, l'adéquation suffisante pour valoriser ce patrimoine, ce qui serait source de malentendus?
La Bourgogne est faite ainsi. On a une classification qui existe, qui a été une classification qui a été faite par des hommes et des femmes, voilà, qui est historique, qui est séculaire, qui repose sur plus de 600 ans d'histoire. Aujourd'hui, elle est établie. Et aujourd'hui, libre à vous de la respecter, de chercher à l'améliorer, à mieux la comprendre, ou de vous reposer sur vos lauriers, sur vos acquis. Voilà. Donc la Bourgogne n'échappe pas à cette tentation, c'est humain. Voilà. Aujourd'hui, pour moi, ce qui est très important, c'est que la majorité, en tout cas une majorité des vignerons en Bourgogne, continue de travailler pour faire un vin qui sera meilleur d'une année à l'autre, avec les contraintes de l'année. Mais c'est effectivement aussi un constat, probablement que certaines personnes se reposent aussi sur ces acquis.
Donc le classement des crus est pour vous une liberté dans la mesure où vous en assumez les contraintes?
Exactement. Moi, j'accepte cette classification. Je ne dis pas qu'elle est parole d'évangile. Voilà, elle est soumise aussi à une interprétation humaine. Elle ne garantira jamais une qualité parfaite. Voilà. Mais c'est important pour moi aussi de pouvoir m'appuyer sur des classements qui ont été faits et qui ne sont pas des classements qui ont été faits par hasard. Voilà, il y a une réelle raison de me remettre dans cette configuration-là et de les améliorer, de les bonifier, même de les transcender.
Est-ce que, au cours de votre carrière, parce que c'est une carrière, on peut parler comme ça, vous avez évolué dans le geste technique? Le geste technique, c'est-à-dire dans la façon de vous présenter face à vos vignes?
Alors, dans cette façon de se présenter par rapport à mes vignes, la posture est la même. Pour moi, un des fils conducteurs, effectivement, c'est d'avoir ce grand respect pour cette part de nature, pour ces vignes et ce végétal. Ma posture, elle n'a pas changé. Mon geste, oui, lui, il a changé. Mais cette ligne de conduite, c'est la même. Voilà, j'avais la même il y a 20 ans.
Alors, votre geste a changé, mais je vais être un peu primaire. Est-ce que c'est le sécateur qui fait évoluer votre présence intellectuelle, ou c'est l'inverse ?
Non, je pense que c'est une réflexion qui avance et qui modifie le geste. Voilà. Mon esprit commande la façon que j'ai aujourd'hui de cultiver la vigne, même une façon, comme je disais tout à l'heure, très respectueuse de la nature, que ce soit la bio, la biodynamie ou d'autres techniques. Et cet esprit avance, cet esprit mûrit, cet esprit réfléchit, et donc le geste va être modifié, adapté, perfectionné.
Donc, vous avez également accompagné cette évolution du geste technique sous la tutelle d'une évolution d'une attitude mentale, intellectuelle.
Alors, pour moi, c'est le cheminement logique. Voilà, aujourd'hui on ne va pas reproduire ou pratiquer un geste que l'on ne maîtrise pas, que l'on n'a pas compris ou que l'on n'a pas voulu, voire même pensé.
Meredith Monk, activité fractale. J'ai pensé à ce morceau de musique en préparant l'émission Cyprien Arlot. J'ai notamment appris ce qu'était une activité fractale. Une figure fractale est un objet mathématique qui présente une structure similaire à toutes les échelles. C'est un objet géométrique infiniment morcelé dont les détails sont observables à une échelle arbitrairement choisie. En zoomant sur une partie de la figure, il est possible de retrouver toute la figure. On dit alors que cette figure est autosimilaire. Les fractales sont définies de manière paradoxale. La racine latine fractus signifie brisure, irrégularité, et pourtant elle démontre une constance, quelque chose d'inamovible. Ce modèle fractal commence même à se développer en finance, où l'approche fractale se prête au marché volatile. Des sociétés l'utilisent même afin de prévoir certains mouvements de prix à court terme. Cette approche mathématique est basée sur la volatilité des échanges afin de valider les tendances. La volatilité, le morcellement, l'irrégularité posséderaient ainsi une logique reconductible qui permettrait d'en rétablir et d'en établir une vérité mathématique. Est-ce pour vous, le vigneron et l'homme, une possibilité, ou rejoignez-vous le professeur Magnard qui estime qu'à ce niveau, les mathématiques peuvent tout prouver, tout démontrer, tout manipuler, mais ne jamais rien résoudre. Je vais essayer de résumer. Vos certitudes doivent-elles se périmer dès leur éclosion, condamnées à la précarité, comme s'il fallait des années de réflexion pour aboutir à une réponse qui ne supportera jamais la réalité ?
Alors c'est une belle question, et pour moi qui sonne tout à fait dans le milieu dans lequel j'évolue, pourquoi ? Tout simplement parce que je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, je travaille avec la nature. Voilà, le métier de vigneron, c'est travailler avec la nature, avec les éléments. Aujourd'hui, peut-être que dans l'époque dans laquelle on vit, certains pensent maîtriser tout de A à Z. Aujourd'hui, on est dépendant à 100% de cette nature, de cet univers, de tous ces éléments qu'on ne maîtrise pas et pourtant qui sont parfaitement réglés, organisés, conçus. Et aujourd'hui, faire un vin, c'est accepter de ne pas tout maîtriser. Et pourtant, quand on évolue dans cet univers justement fait d'irrégularités, que la météo, c'est un très bon exemple, on va retrouver effectivement des constances, des cycles sur certains millésimes, sur certaines périodes de l'année, qui vont m'apporter personnellement des repères et qui vont me permettre d'évoluer dans ce monde que l'on ne maîtrise pas. Les mathématiques, pour moi, cette question-là, une vingtaine d'années, j'aurais été très réfractaire et j'aurais dit que les mathématiques n'avaient rien à faire dans l'univers dans lequel on vit. Et pourtant, aujourd'hui, je suis un petit peu forcé de constater que il y a cette régularité, il y a certaines choses qui sont arithmétiques, même dans un métier comme le métier de vigneron dans lequel on paraît ne rien maîtriser. Il y a cette part, effectivement, je dirais presque de logisme.
Ouais. Et vous avez besoin aussi de sécuriser votre pensée, de fiabiliser vos interrogations, quitte à avoir des réponses qui systématiquement se déclinent dans des impasses.
Alors, je pense que c'est une qualité à ne pas perdre lorsque l'on fait du vin, peut-être aussi comme chemin de vie. Effectivement, c'est de ne pas avoir de certitude, ne pas penser que un certain matin en se réveillant, ça y est, on a trouvé et que on va faire le meilleur vin du monde. Non, c'est à partir du moment où on arrive à cette illusion, je pense que voilà, le jour d'après, on fera moins bien que le jour d'avant. Voilà, donc c'est vrai que ce doute, il est très important. Aujourd'hui, savoir douter, même si on peut être dans une position très établie, savoir douter, c'est la garantie demain de faire encore mieux.
Beaucoup de vignerons bourguignons affirment s'effacer devant le terroir et que leur véritable signature et l'absence de leur présence dans le vin, afin de ne pas interférer et de renoncer à eux-mêmes pour sublimer le goût de leur parcelle, et que l'on ne puisse jamais se rendre compte de leur travail. Or, de façon étrange, quand on goûte un vin du domaine Arlo, on reconnaît le domaine Arlo, quand on goûte un vin du domaine de la Romanée-Conti, on s'en sert parce que c'est une référence, on reconnaît le goût de la Romanée-Conti, comment se fait-il que plus le vigneron clame sa grandeur dans l'effacement, et plus nous sommes au contact de son style?
Je pense que dans le vin, il y a une grande part d'humain. Si on regarde l'échelle de la Bourgogne, et encore plus récemment, la consécration qu'a obtenue cette Bourgogne avec le classement des climats au patrimoine mondial de l'UNESCO, on a tout dans cette définition. Le climat, c'est un lieu bien identifié, avec une géologie, une pédologie, une exposition, avec un cépage, donc qui est identifié, mais tout ça est catalysé par l'humain, tout ça est catalysé par des siècles d'histoire, de compréhension, de façonnage du lieu, pour y produire, y cultiver la vigne, y produire un vin. voilà, élaborer un vin. Et donc, forcément, dans cette humilité que l'on doit avoir face à ces climats, il y a une grande part d'humain. Et je dirais que, effectivement, peut-être plus on cherche à être en retrait, et finalement, plus on aura une part de notre personnalité qui va se décupler dans cette notion de climat. Aujourd'hui, effectivement, moi, c'est tout à fait la définition, la position que j'avais quand j'ai commencé, en me disant on n'est rien, et c'est le climat qui parle, le Clos Saint-Denis, le Clos de la Roche. Et puis, je me rends compte qu'au fil des années, voilà, on a une grande part de soi, et quand je dis une grande part de soi, et que je regarde d'ailleurs ce que je pratique au quotidien, c'est cette part d'humain, elle est à mon échelle, à mon niveau, c'est pas uniquement la part que j'apporte, c'est vraiment une grande part d'humain, c'est-à-dire une équipe qui est assez conséquente, des gens qui sont tous passionnés, tous les gens qui m'entourent, que j'ai choisis, qui sont à mes côtés, que ce soit même la famille et mes collaborateurs. C'est une grande aventure humaine, et plus cette part d'humain est importante, et dans les vins, effectivement, plus vous aurez probablement un style, une signature.
Et alors, comment vous pouvez résoudre au quotidien ce paradoxe de signifier que vous vous effacez en sachant que vous êtes de plus en plus présent?
Je crois, et sans faire le...
C'est une question que vous vous posez ou pas?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Pourquoi? Parce que derrière cette... plus l'on recherche et plus l'on souhaite exprimer dans un lieu où est cultivée la vigne le goût de ce lieu, et plus on va devoir y mettre une grande part de compréhension, d'attention et d'effort. Voilà, une grande part d'humain. Donc, vous êtes en permanence dans cette recherche d'expression du lieu, d'un vin qui est significatif, qui a le goût et l'esprit voilà, d'un Bonnemare ou d'un Clos Saint-Denis, avec tout le travail. Et plus vous serez dans cette démarche-là, et plus vous y mettrez de travail et d'attention. Et la balance, je pense, elle s'opère à un moment donné où vous devez faire confiance à certains moments, à la nature, au lieu. Voilà, et à d'autres moments où vous devez être plus présent.
Et est-ce que vous ne devez pas finalement faire confiance à des choses dont vous ne saisissez pas tout, qui vous échappent et que vous ne comprenez pas? Est-ce que là, l'essentiel n'est pas là finalement?
Là, on est dans le ressenti, tout à fait. Et donc, on en revient à l'essentiel, à l'essence de ce qu'on a dit. C'est que pour moi, un grand vin ou un bon vin, c'est un vin dans lequel vous aurez de l'émotion. Et pour avoir cette émotion-là, il faut du ressenti, une part d'aléatoire. Une part de vibration, il y a des choses que l'on perçoit, que l'on ressent. C'est toujours un petit peu ésotérique de dire ça, mais réellement c'est comme ça que ça se passe. Il y a des choses qui ne sont pas toujours quantifiables, voilà, donc c'est très subjectif, une fois de plus. Donc la subjectivité, c'est une part de culture, une part d'histoire, une part de savoir, une part de raison, mais aussi une part d'inconscience, une part de confiance et une part de chance. Voilà.
Cyprien Arlot, nous arrivons déjà au terme de nos grands entretiens. Je vous remercie d'avoir accepté de venir dans nos studios. Nous nous retrouverons parce que vous allez revenir pour une émission consacrée à la musique classique, puisque vous êtes un fin mélomane et que vous avez été partenaire d'un disque. Et nous nous retrouverons à cette occasion. Merci Cyprien Arlot.
Merci Eric.